Bon, bonjour à tous. Donc, je vais d'abord me présenter très rapidement pour vous dire un peu d'où je viens, en fait. J'ai failli être chercheur en informatique et puis j'ai essayé de faire la physique. Alors finalement, je suis un petit peu infiltré, si vous voulez, dans un laboratoire de physiciens. Je vois un peu comment ça se passe. Et je vais vous en parler donc dans la suite. J'ai aussi eu l'occasion d'enseigner la programmation. En troisième cycle, en fait, à l'université, en classe prépa. Donc, j'ai pu voir un peu comment les étudiants réagissent et ce qu'ils peuvent en retirer. Donc, globalement, cette présentation, son but, c'est de faire un peu le point sur tous les arguments qu'on peut donner pour que le C, le Fortran, Java, C++ ne soient pas enseignés comme premier langage. Et la recommandation ici, bien sûr, c'est Python. Alors, on va voir si je peux passer à la slide d'après. C'était pas celle-là. Alors, on recommence. Hop. Non. Ah, attends. Oui. Voilà. Alors, donc j'ai découpé cette présentation en plusieurs thèmes importants, on est environ 5, hein, une petite demi-douzaine, qui regroupent en fait les arguments par classe. Alors ici, le premier argument, Tarek l'a mentionné tout à l'heure, c'est que Python est facile. Un des problèmes qu'on trouve de temps en temps quand on va voir des gens, hein, j'étais en train de parler avec un collègue que je viens de rencontrer là par hasard, qui s'occupe justement de l'informatique à l'université Paris 6, pour les physiciens, c'est que ah ben, Python, oui, ça a l'air pas mal, mais je ne peux pas l'enseigner, je ne connais pas. Et ça, ce n'est pas un véritable argument. Parce que Python est facile. Alors pourquoi Python est facile? Comme l'a dit Tarek, en quelques heures, on peut apprendre à programmer en Python si on sait déjà programmer. D'accord? Quelques jours pour connaître presque tout. D'où ça vient? On a une syntaxe propre. Et puis il y a aussi ce principe qui n'était pas du tout le mien avant parce que je viens de Perl avant. Ce principe qui dicte qu'il y a une seule façon de faire les choses, hein, si possible. Alors, la comparaison est évidente, hein, sur un des plus simples programmes qu'on peut écrire, pour écrire bonjour, Python, une ligne. En C, c'est quatre lignes, mais elles sont bourrées d'informations. C'est terrible pour un étudiant. Dièse include. Ok, faut le préprocesseur, faut en parler. SCDIO, ah oui, les librairies standards. Ah. Point H, les fichiers headers. Int, pourquoi renvoyer un entier? Qu'est-ce que c'est qu'un entier? Main, pourquoi l'appeler main? Qu'est-ce que ça fait? Void, backslash n, point virgule, pourquoi retourner d'une routine, return, zéro, pourquoi? Très compliqué. Alors, un des arguments aussi contre l'apprentissage de Python ou de langages qui ne sont pas le C ou le C++, etc., c'est ah ben, il faut quand même que les étudiants apprennent le C, ils ont besoin de trouver un boulot après, par exemple. Hein? C++, c'est bon, à la louche 25% je sais pas, des langages utilisés. Bien, en fait, Python, ça permet d'apprendre le C. Une bonne partie du C. Exemple, il y a des boucles. D'ailleurs, les boucles en Python sont plus simples qu'en C. D'accord? Elles sont plus vraies. On n'a rien à faire d'un index la plupart du temps. Donc les boucles du C sont très bas niveau, inutilement. On apprend les variables, on n'apprend pas les pointeurs, ce qui est plutôt bien pour commencer, les fonctions, etc. On peut même faire des objets, comme le disait Tarek aussi, la programmation fonctionnelle, plein de choses si on veut. Donc déjà, on peut apprendre tout ça avec Python. Après, on peut faire du C. Le bas niveau, on n'en a pas besoin, d'accord? Pour commencer, pour apprendre un langage, c'est absolument inutile. Plusieurs types d'entiers, bah, ça sert à quoi? C'est pas naturel. Hein? Gérer la mémoire, le malloc, etc. On n'en a pas besoin, d'accord? Enfin, faut apprendre tout ça aux gens qui ont l'habitude du C, C++. Compiler, hein, on n'en a pas besoin non plus, d'accord? Et donc, globalement, le gros problème avec des langages comme C, C++, etc., c'est que pour un étudiant, pour quelqu'un qui commence à apprendre la programmation, les arbres cachent la forêt. C'est un problème réel que j'ai de nombreuses fois vu. Alors, un autre point, après Python est facile, c'est que Python est motivant aussi. Et ça, c'est très important, parce que je pense qu'en éducation, en enseignement, la motivation est clé pour un bon apprentissage. Alors là, il y a des arguments particulièrement vicieux, Il y a des gens, des enseignants de programmation qui disent qu'il faut sélectionner les meilleurs et donc il faut utiliser C et des langages comme ça pour vraiment écrémer. Bon, ils ont le droit de penser ça, mais il faut peut-être mieux pas qu'ils soient enseignants, je pense. Mais on peut quand même leur dire qu'on peut aussi apprendre un langage motivant, c'est pas mal. Alors, il y a des problèmes avec C, ils sont évidents. Quand je dis C, d'ailleurs, ça vaut pour Fortran, ça vaut pour C++, ça vaut pour Java aussi, en grande partie. C'est frustrant. J'ai beaucoup de mal maintenant à programmer en C parce que j'ai pas envie. Il manque des types. Les listes de Python, c'est un type absolument indispensable. On va pas, quand on fait du C, on va pas réimplémenter une liste chaînée pour faire la même chose. C'est embêtant. Les dictionnaires aussi, on a sans arrêt besoin. C'est pas dans C, c'est pas dans Fortran, en standard. Les bibliothèques standards de C sont très limitées. Résultat, productivité limitée, c'est démotivant, etc. Tout ça, c'est des évidences pour vous, mais c'est les arguments que j'avais envie de compiler parce qu'ils sont importants pour essayer de convaincre les gens. Là, par hasard, donc comme je vous disais, j'ai rencontré un collègue. Il me disait qu'il a eu un mal fou quand je lui expliquais pourquoi j'étais ici. Il dit qu'il a eu un mal fou à l'université Paris 6 à faire accepter que le C ne soit pas enseigné comme premier langage aux physiciens. Il a eu un mal fou. Alors Python, donc, ça permet en pratique, de faire des projets qui sont agréables, amusants, quand on apprend le langage. C'est beaucoup plus intéressant que d'implémenter le triabule, par exemple, comme on peut le faire dans un premier cours de langage C. On peut faire des interfaces homme-machine, on peut gérer le réseau, accéder au web, analyser des pages, faire des graphismes, etc. Il y a plein d'algorithmes déjà inclus dans la bibliothèque standard, ce qui permet d'aller au-delà très facilement. Alors, il y a aussi un point qui rend Python beaucoup plus agréable, c'est la gestion des erreurs. Faites un programme en C, un débutant fait un programme en C, il se trompe sur les bornes d'un tableau, il n'a pas mis les bonnes options de compilation, poum, crash. Il ne sait pas d'où ça vient, il a une adresse bizarre, il n'a pas l'habitude de ça, c'est horrible. Python fournit cette pile d'appels, donc le backtrace, qui est beaucoup plus pratique. Ça fait un peu peur au début hein, de voir tout ce texte, mais on s'y habitue et on finit par apprécier. Il y a aussi un point que j'aimerais soulever, c'est que il est, à mon avis, beaucoup plus productif et agréable d'avoir des erreurs à l'exécution que des erreurs à la compilation. Pourquoi? Quand vous avez des erreurs en Python, ben, votre programme, vous le lancez, il marche un petit peu, et puis, pam, il y a un problème. Ah, c'est pas mal, il a marché. Là où le gars en C, il va être devant sa machine, il va passer 3 cours à essayer de compiler, j'ai vu ça, master, 2e année. Et il n'a rien fait. D'accord? Donc, Python donc, permet de faire tourner les programmes et de réparer les bugs un par un. Et on a la satisfaction de faire des progrès. Et je pense que c'est un point très important aussi, lié au fait qu'on n'a pas besoin de compiler. Il y a aussi un des travers de la compilation, c'est que vous avez des élèves sur un cours de, je sais pas, 5 ou 10 séances qui passent leur temps à essayer de compiler leur programme. Et puis ça devient très important. Et au 9e cours, ils ont réussi à compiler. Le programme est plein de fautes, l'algorithme est mal implémenté, il n'est pas du tout robuste, mais ils ont réussi à compiler. Donc ça crée un faux but, en fait, de fausses attentes. Donc compiler n'est pas un but en soi. C'est évident pour des gens qui programment en Python, et c'est quelque chose qui ferait du bien à être mis dans les cours de langage de programmation. Alors, il y a des problèmes, on va dire, avec Python, oui, mais le C, justement, vous ne compilez pas, attention, le type, les types des variables ne vont pas être vérifiés, c'est pas bien, et puis en plus, c'est lent, le Python. Hein. Ben, en fait, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, effectivement, les problèmes de type, par exemple, vont se voir à l'exécution. J'ai déjà montré que c'était quand même mieux d'avoir des problèmes à l'exécution. Et puis, l'argument le plus important, c'est que sur la vitesse d'exécution, par exemple, c'est que ce qui compte, hein, ce n'est pas la vitesse d'exécution d'un programme, mais la vitesse de réalisation d'un programme. Hein. Quand on apprend un langage, rien à faire que le programme qui, je sais pas, analyse un carnet d'adresses, va chercher des pages web, fasse ça en une demi-seconde plutôt qu'une seconde. Hein. Ce n'est pas important. Alors, les chiffres que j'ai glanés sur Internet, c'est que le temps de développement en Python par rapport au temps de développement en C, c'est facilement un facteur 2 à 10, hein, suivant les projets. Il y a des statistiques plus précises qu'on peut bien documenter aussi, c'est que bon, il faut quelque chose comme 5 fois moins de lignes qu'en C, C++. Hein, tout ça, ça varie bien sûr en fonction de ce qu'on programme, etc. Mais c'est des ordres de grandeur. Alors tout ça, ça aide donc à programmer rapidement, à mettre les mains sous le capot et à apprendre le langage, réussir à l'utiliser rapidement. Alors, aller vite à programmer, bon, non seulement c'est agréable en soi, mais en plus, ça permet de garder du temps pour tester. Pas oublier, hein, tester c'est important. Donc les étudiants peuvent apprendre à tester leur programme s'ils ont eu le temps de l'écrire pendant le cours. Et puis écrire vite, ça permet aussi quand on a besoin de rajouter une fonction, bah, de la mettre, quand on a besoin d'améliorer le programme, de le faire sans se dire oh là là, non, mince, j'ai que 3 heures devant moi, je peux rien faire parce que je programme en C. Alors, au-delà de l'apprentissage des programmes, il y a aussi les programmes qu'on développe pour être utilisés sur la durée. Hein, ça peut être dans un laboratoire, dans une entreprise, etc. Dans Python, il y a quelque chose de très bien qui n'est pas annoncé, c'est qu'on peut mettre des chaînes qui expliquent ce que font les routines. Ça fait partie de la syntaxe, là où en C, on va mettre des commentaires uniquement. Donc des choses qui sont beaucoup moins accessibles. La documentation de Python, on y a accès avec une commande, donc pdoc, etc. C'est beaucoup plus pratique, donc ça permet aussi aux gens qui vont modifier vos programmes de savoir ce qu'ils font. Voilà, donc le code qu'on écrit est pérenne, utilisable plus longtemps. Alors, un des arguments aussi pour ne pas enseigner autre chose que le C ou le C++, c'est Python, c'est quoi? Hein, je ne connais pas, je ne vais pas apprendre un langage à mes élèves qui ne vont pas pouvoir utiliser. Bon. En fait, c'est un très bon investissement. C'est un langage très utilisé, comme disait Tarek tout à l'heure, le langage de l'année. Hein? Quand on regarde les statistiques en termes de plein de facteurs, en termes de projets sur SourceForge, en termes d'offres d'emploi, en termes de cours proposés, etc., il est dans le groupe de tête avec des langages que beaucoup de gens connaissent, hein, Java, C++, Perl éventuellement, SQL. Hein? Python est répandu, hein? Il y a des acteurs majeurs qui l'utilisent. Python est multiplateforme. J'ai même vu que ça tournait sur la Nintendo DS de mon fils. Ça, c'est amusant. Il est multiplateforme même d'une façon extrêmement pratique parce que le code développé en Python est plus compatible et fonctionne plus facilement d'une plateforme à l'autre que le code développé en Fortran, par exemple, ou en C. Ces codes vont typiquement avoir des tas de conditions pour le préprocesseur pour adapter le code à telle ou telle machine. C'est absolument infernal. Et c'est quand même une question légitime hein, de la part des gens de se dire oui, je ne veux pas apprendre à mes étudiants un langage qui n'est pas connu. Hein. Et bon, Python est connu, et effectivement, c'est une question légitime parce qu'il est utile d'avoir une communauté importante. Hein. Donc il y a une communauté mondiale importante qui réagit vite, qui répond très bien, qui documente plein de choses, qui contribue par des modules, et ça, c'est très utile aussi. Alors, Python. C'est un investissement qui permet d'être ouvert à des tas d'autres choses aussi, c'est important, hein. On ne veut pas être enfermé dans un langage. Là, j'ai déjà mentionné les bibliothèques standards, hein, qui permettent déjà de faire beaucoup de choses. Mais en plus, on peut relier des outils qui existent déjà. Hein. On peut l'utiliser, j'ai utilisé largement pour des codes Fortran qui produisaient des résultats de physique pour pouvoir les analyser, c'est extrêmement utile. On peut mettre, quand on a besoin de vitesse, hein, aussi pour répondre à cette question de la vitesse, on peut mettre du C dedans. Hein, inclure de façon transparente des routines C ou Fortran, c'est extrêmement pratique, ça marche très bien en général. Et donc Python, c'est un outil un peu comme un couteau suisse, quoi. Donc on ne s'enferme pas, on ne se marie pas pour la vie avec Python dans un mariage monogame. Alors, bon, Python, c'est très bien. La plupart d'entre vous sont probablement d'accord pour dire ça, mais c'est pas parfait. Je pense qu'il faut aussi accepter un certain nombre de problèmes qui existent dans Python ou de petits défauts. Là, j'en cite juste quelques-uns, hein, parce qu'il est important de pouvoir répondre. Alors, j'ai déjà mentionné la vitesse d'exécution, bon, ça c'est assez facile. Au moins pour apprendre à programmer, on s'en fiche. Il y a aussi pour la plupart des projets que je fais, j'ai pas besoin de vitesse, hein, sauf quand je fais des calculs sur superordinateur avec 64 processeurs. Bon, là, ok, mais c'est du Fortran dans ce cas-là. Hein. Il y a aussi un argument un peu plus subtil, c'est que programmer en Python, en fait, ça peut produire des programmes extrêmement rapides. Une des raisons, c'est que une bonne partie de ces Python est programmée en C. Donc plutôt que d'avoir à programmer en C, d'avoir besoin d'un tri, d'implémenter un tribule, vous utilisez le tri de Python, ça ira peut-être plus vite. D'accord? Bon, je n'ai pas fait le test sur le tri, mais il y a plein d'algorithmes qui ont déjà été inclus, comme les tables de hachage pour les dictionnaires, etc., qui permettent d'aller plus vite que ce qu'on ferait à la main en réinventant la roue. Voilà, donc ça c'est pour l'argument de la vitesse. Alors, il y a des choses un petit peu délicates quand même dans Python. Il y a la magie. Alors, tout est souligné, souligné, etc. Bon, personnellement, je trouve ça un petit peu sale. Mais bon, Ruby est un petit peu plus propre de ce côté-là. Mais les débutants, quand on apprend le langage, n'ont pas besoin de tout ça. D'accord? Donc, on n'est pas obligé. C'est pas comme en C où on a besoin de faire du bas niveau dès le début, avoir des int, avoir des return, avoir du void, etc. Là, on n'en a pas besoin. Pour les objets aussi. Alors, les objets, bon, l'encapsulation hein, des données, quand on cache les membres privés, etc., il faut le faire de façon syntaxique, avec des soulignés. C'est un petit peu sale. En contrepartie, les objets Python sont très simples. Hein, et si vous avez besoin de faire une classe, ben, vous la faites, c'est sans se poser autant de questions que ce qu'on a à faire en Java ou en C++. C'est beaucoup plus pratique. Donc, on paye avec les qualités de Python certains défauts, mais qui sont mineurs à mon avis. Alors, j'ai dit passer, faut pas apprendre C comme premier langage, faut pas apprendre C++, faut pas apprendre Java. On va me dire, ah bah oui, mais il y a Ruby, il y a Perl, hein, ils sont pas mal, ils ont une bonne base d'utilisateurs. Alors ma position pour Perl, je vous ai dit tout à l'heure que je venais de Perl, je trouvais ça très bien au début. Python, je considérais que c'était un peu trop exotique. Et j'en suis revenu. Hein. Alors dans Perl, il y a toutes ces variables, faut mettre dollar, at, pourcent devant, bah, c'est un peu lourd. Alors, il y a des références aux variables aussi, il faut des référencer, c'est compliqué. Et puis, en fait, cette liberté hein, donnée par le fait qu'il y a plein de façons de coder la même chose, que j'appréciais beaucoup au départ, finalement, elle m'a embêté. Parce que, après avoir, ne pas avoir programmé en Perl pendant, je sais pas, moi, 1 mois, 2 mois, il fallait que je retourne un peu voir le manuel, il fallait que j'aille regarder ce que les variables magiques, là, dollar pipe signifiaient, etc. J'étais perdu. C'est trop compliqué, en fait, Perl, je trouve. Alors. Il y a aussi Ruby. Alors, ce qu'on dit sur Ruby, hein, j'ai pas essayé, c'est que les bibliothèques sont un peu moins mûres, un peu moins développées, avec un peu plus de bugs, et que la documentation est partielle. Sauf si vous savez lire le japonais. Hein, parce que le créateur est japonais. Voilà. Donc, la conclusion est simple. Faut d'abord apprendre Python. Ou au moins apprendre le C et les langages similaires en deuxième. D'accord? S'il y a des gens qui vous disent qui pensent vraiment quand même qu'il faut enseigner le C en premier, hein, il y a quand même des arguments. La réalité que j'ai observée directement, c'est que les étudiants retiennent peu de choses. Ils n'ont pas appris à programmer, ils ont appris à compiler, ils ont appris la syntaxe du C, ils ont appris qu'il y avait trois types d'entiers en C, etc., plus les entiers non signés. Ce n'est pas la programmation, c'est du C, d'accord? Et ils en ont retenu peu. Et programmer, ça devient rebutant. Il y a à plusieurs instances, j'ai reçu un email de gens du labo me demandant, ah, tu pourrais pas m'écrire un programme, là, j'arrive pas à faire ça, on a besoin de faire la comptabilité, machin, machin. Résultat, c'était 5 lignes de Python. Donc, quand on n'arrive pas à écrire un programme qui fait 5 lignes, alors qu'on sait programmer en C ou en Fortran, il y a un problème. C'est-à-dire que C et Fortran, ça suffit pas. D'accord? Donc, de toute façon, il est important d'apprendre d'autres langages. Alors, ça, c'est un exemple de choses que j'ai observées avec des programmes en C que j'ai ou en Fortran que j'ai eu à utiliser. Ça crache. C'est chiant, hein? Ça crache. Python, ça fait des erreurs. Ça crache pas brutalement. Et c'est absolument terrible parce que des fois, vous passez 10 minutes à entrer les données dans un programme Fortran en étant bien sûr d'écrire 1.2 et non pas 1.2E0 parce que ça marchera pas, il reconnaîtra pas, d'accord? Et puis après, poum, il crache. Pas cool. Dans les programmes Fortran que j'ai eu à utiliser aussi, il y avait des programmes comme ça. Ça, c'est. Vous y touchez pas, hein, parce que si vous voulez modifier un truc, ça va tomber. Ça va se casser, ça va plus marcher. C'est horrible. Vous avez un programme qui marche pas, mais on le garde, d'accord? Donc, j'ai beaucoup souffert de ça. Il y a aussi des programmes comme ça. Oh, ils ont l'air très beaux, t'as l'air de bien marcher et tout. Il y a interface utilisateur, hein, même des programmes que vous téléchargez sur le web, hein, qui ont été faits en C, etc. C'est très très beau. Vous essayez de l'utiliser, il n'y a rien derrière. Ça ne marche pas. Hein, ils ont passé tout leur temps à essayer de programmer en C, une interface utilisateur, c'est horrible. Et il y a enfin un programme comme ça. Ah, ça, j'aime beaucoup. Je vois, vous prenez le marteau, vous tapez sur un des clous, il y en a un autre qui ressort. Et là, c'est pareil avec les bugs. J'ai un programme que j'utilisais. Je vais, mais il y a un problème, l'échelle en log, c'est pas du tout ça. Ah, ok, je vais la corriger. Corrige l'échelle en log. Je commence, je le relance. Ah mince, l'échelle linéaire, elle ne marche plus maintenant. Ouais, ça, les programmes fragiles. Et... C'est le résultat direct de l'enseignement du C ou du Fortran comme premier langage. Mais direct. C'est simple, c'est mécanique. D'accord ? Alors que quand les étudiants apprennent Python comme premier langage, ou un programme plus simple, hein, même s'ils apprennent Skylab, moi ça ne me dérange pas trop, hein, c'est que les étudiants savent qu'ils peuvent programmer. Très bien, c'est satisfaisant, ils ont été motivés, ils ont appris quelque chose, ils ont appris à programmer avant d'apprendre un langage. Et deuxièmement, ils peuvent se lancer dans un langage plus compliqué. Ils peuvent apprendre C, ils doivent apprendre C, même ça fait partie des langages de base. D'accord ? Et il y a un véritable enjeu, c'est véritablement la productivité des étudiants. Parce que quand on sait programmer en Python, on programme mieux en C après. On comprend que derrière le bas niveau, il y a du haut niveau et des choses simples. Alors, pour conclure, là, c'est ma page Stumble Open, en fait. J'ai ouvert ça l'autre jour. Regardez, c'est en fait la galaxie de choses qui m'intéressent ou de pages que j'ai regardées. J'ai remarqué qu'il y avait Exotic Pets, alors les animaux exotiques. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai dû regarder des pages comme ça, le soir je suis un peu fatigué, je regarde des pages au hasard, des trucs sur les animaux exotiques, ça a dû m'intéresser. Et un mois après, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas quand même. Et en fait, j'ai compris en fait que Exotic Pets, c'était un de mes domaines parce que je regardais beaucoup de pages sur Python en fait. Et donc StumbleUpon croyait que je m'intéressais aux animaux exotiques. Et ça c'est un peu là, il y a une mission là, c'est que quand vous parlez à des gens... La plupart des gens qui sont concernés par l'apprentissage de la programmation vont faire « Python, c'est quoi ? C'est un animal exotique ?» Non, c'est un langage de programmation et je pense qu'il est important que vous tous, ici, participiez à une sorte de mission. Je pense qu'il est important d'apprendre aux gens qu'il y a autre chose derrière le C, que même C et consorts, c'est des langages dangereux comme premier langage de programmation. Voilà. Merci.
Alors, si vous avez des questions, je fais passer le micro. Oui, donc c'était juste pour ajouter quelque chose. Donc, nous, à Logilab, on enseigne à l'École centrale de Paris la programmation algorithmique en première année qui est faite en Python. Donc, c'était pour aller dans votre sens.
Très, très bien.
Et ensuite, pour préciser également que, effectivement, il est connu qu'un du code est écrit une fois et lu 100 fois. Et que Python, c'est quand même bien pour ça. C'est-à-dire que comme il n'y a qu'une seule façon d'écrire les choses, ben, on comprend plus facilement ce qu'il y a dans un programme et ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà.
Exactement. Très, très important.
Oui, bonjour. Juste une petite remarque. On disait que Python, c'était vachement bien pour commencer à apprendre à programmer et puis après, on pouvait passer à d'autres langages. Le problème, c'est que il y a de fortes chances pour que les gens n'aient plus du tout envie d'apprendre le langage suivant, même pour manger, quoi. Enfin, le problème, c'est qu'il y a une relation aussi d'affectivité qu'on a par rapport à Python, par rapport à ce langage-là, comme pour Ruby. Hein. Ruby aussi, moi, je ne l'utilise pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont devenus complètement dingos de ce langage-là. Et c'est un peu un truc déclencheur, quoi, c'est-à-dire qu'on aime programmer, et après, passer à autre chose, ça devient une douleur, quoi, quasiment.
Je partage la douleur, moi j'ai. C'est horrible.
Oui, bonjour. Moi je suis enseignant à l'Université Paris 13 et je voulais juste témoigner du fait qu'il était effectivement très possible de passer rapidement de Python à C, puisque moi j'enseigne en premier cycle, en DUT, avec Python. Enfin, je l'ai fait pendant plusieurs années, disons, de 2000 à 2004. Et mes étudiants continuent en formation d'ingénieur réseau et télécom, beaucoup d'entre eux, où là ils sont obligés par leurs enseignants à faire du C et en 2 mois ils se mettent parfaitement au niveau. Donc effectivement c'est un très bon premier langage. Le problème qu'on a eu et qui a fait que j'ai arrêté d'enseigner le Python en premier cycle, c'est la difficulté à trouver des enseignants. Donc s'il y a des gens parmi vous qui veulent faire quelques cours à l'université, ben vous pouvez me contacter.
Oui, je pense qu'aussi, il est important de convertir les enseignants qui enseignent en C. Parce que
oui, mais les enseignants universitaires ne sont pas forcément disponibles pour se convertir, pas forcément volontaires.
C'est vraiment quelques heures, mais c'est dur. Ouais. Ouais.
L'association AFPI veut soutenir aussi le fait que Python soit de plus en plus enseigné. Donc si nous, à travers l'association, on peut aider... justement, ce genre d'enseignement, par quelques moyens que ce soit, peut-être qu'on peut discuter après justement pour voir les possibilités.
Bonjour, alors moi je suis aussi enseignant à Paris 13 et je suis un offre Jojo qui continue à faire du Fortran à mes étudiants comme premier langage. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a là-dedans des vertus de rigueur que tu ne trouves pas dans Python, qui est un langage un peu magique et qui est très plaisant. Mais beaucoup de choses sont faites derrière et les étudiants s'en rendent pas compte. Et il y a un danger à ça. Et le jour où ils repassent à un autre langage, ah mince, il faut que je déclare ma variable. Ce qu'ils ne font pas dans Python. Alors, personnellement, ce que je fais les choses de base en Fortran. Bon, donc, ils savent ce que c'est qu'une variable, ils savent qu'il faut la déclarer, l'initialiser éventuellement. Je leur fais faire des tests, des branchements, des fonctions. Bon, vraiment les choses, les briques de base de la programmation. Et une fois qu'ils ont acquis ça de manière... Alors, effectivement, ils butent un peu sur les problèmes de compilation. Ah, j'ai mis un point, il ne faut pas mettre un point, machin. OK, mais si tu veux... Alors, c'est vrai que ce n'est pas marrant. Il faut arriver à leur faire digérer ça. Ce n'est pas forcément facile. Mais ça leur apprend un truc, c'est que, bon, bah, y a besoin d'une certaine rigueur. Il n'y a pas quelqu'un dans la machine... qui intègre tes idées et qui les met en application. Non, il faut écrire exactement ce qu'on veut faire de manière rigoureuse. Et après, bon, on passe à des choses plus... Après, je passe à Python, effectivement, donc on pourra peut-être parler tous les deux. Et c'est vrai que c'est quand même plus fun, ça, c'est sûr. Mais je garde... Alors, tu as pris l'exemple du C. C'est vrai que le C est extrêmement rebutant pour des étudiants, ça, je suis entièrement d'accord. Pas que pour les étudiants, d'ailleurs. Mais le Fortran est quand même un langage qui, au niveau de sa syntaxe, moi, je trouve, est assez simple et ne pose pas trop de problèmes aux étudiants. Donc, voilà comment moi, je fonctionne. J'ai essayé les deux. Hein. J'ai fait Python d'abord, Fortran d'abord. Bon, et finalement, je suis revenu à faire un passage en Fortran en premier et ensuite à Python. Bon, voilà.
Oui, je comprends ton point de vue. En ce qui concerne la rigueur, je ne la vois pas extrêmement. Hein, parce que... Il y a deux points, si j'ai bien suivi. Il y a déjà la rigueur que tu mentionnes, et puis il y a aussi le fait que tu n'aimes pas trop qu'il y ait des choses un peu cachées, que le langage fasse des choses derrière soi. Ouais.
Personnellement, comme utilisateur, si tu veux. Mais c'est dangereux pour quelqu'un qui commence la programmation.
Et pourquoi c'est dangereux? Ça, je ne vois pas du tout. Parce que là, tu peux dire, on programme en assembleur. Si tu veux comprendre.
Oui, non, je ne suis pas intégré.
Voilà.
D'accord. Bon, le typage dynamique en Python, c'est très bien. Je trouve ça génial. Mais en fait. De toute façon, le jour où tu vas les faire repasser à du Fortran ou du C, où ils vont être confrontés de s'y mettre, il va bien falloir qu'ils découvrent ça, si tu veux.
Voilà, bon. En deuxième langage, je pense. Parce que,
d'accord.
Ouais, bon. Parce que la rigueur, en Python, elle existe aussi. Hein, faut pas
absolument. Absolument. Alors justement, et c'est ce côté-là qui n'apparaît pas. Je dirais que c'est un peu le truc brillant. Python, c'est fun et tout. Venez tous, chers étudiants. Et effectivement, c'est vrai que ça marche. Mais... Quand ça ne marche pas, ils sont perdus. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Où est-ce que j'ai merdé? Tu vois, il y a des réflexes, il y a une certaine rigueur, tout simplement, qui n'est pas forcément acquis tout de suite avec un langage comme Python. Donc, bon, c'est deux méthodes d'approche différentes. Bon, pour moi, ça se vaut. Je pense que...
On discutera un peu. Ouais, okay.
Oui, je vous invite à continuer le combat Fortran Python dans le couloir.
Et les deux, mais...
Moi, personnellement, j'ai appris avec Ada, donc Fortran, j'aurais préféré. Le suivant, c'est Sébastien Tricot, si tu veux venir t'installer.